Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 février 2022 et hier on a fait notre troisième séance de hausse consécutive aux États-Unis. C'était pas évident, hein, c'était un petit peu moins franc que ce qu'on a vécu vendredi dernier. Mais globalement, ça va un petit peu mieux, les gens sont en train de se calmer. On est en train de digérer, j'ai presque envie de dire qu'on est en phase de convalescence. On est en train d'accepter le fait que la Fed va nous mettre un petit peu la pression ces prochains mois. Alors certains viennent dire que ça va être compliqué, que ça va durer entre 15 et 18 mois pour qu'on ait vraiment le recul, pour comprendre ce que la Fed est en train de faire et si vraiment ils le font correctement. Et puis d'autres sont en train de nous dire, comme Tom Lee de chez Funstrat hier, qui disait que après la tôle qu'on s'est pris en janvier, on va avoir un monstrueux rallye en février et ça va exploser à la hausse. Alors bon, forcément, tous les goûts sont dans la nature comme d'habitude, mais enfin, pour l'instant, on va y aller step by step et on a vraiment l'impression que le marché va petit à petit, jour après jour, et puis va pas trop s'emballer en avant parce que fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, il y a pas mal de chiffres économiques qui sortent en ce moment. On voit que c'est coup-ci, coup-ça. On n'a pas vraiment encore beaucoup de données au niveau de l'inflation. On va avoir un gros chiffre vendredi avec les non-farm payrolls qui vont nous donner une tendance un petit peu de l'économie. Si les chiffres de vendredi au niveau de l'emploi sont beaucoup trop forts, évidemment, on va reparler hausse des taux. On va parler plus de hausse des taux que prévu. En plus des chiffres de vendredi, on a eu plus ou moins 2-3 données techniques par rapport aux chaînes d'approvisionnement et ça ne va toujours pas très très bien de ce côté-là. Donc toujours un petit peu de tension, mais néanmoins, au-delà de tout ça, on a quand même réussi à tourner en hausse et à finir la séance en hausse à New York, en hausse en Europe. Les gens sont plutôt contents et on regarde un petit peu ce qui se passe, mais c'est surtout au niveau des chiffres trimestriels qu'il faut regarder aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien voir en ce moment au niveau des publications, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment faire un all-in, il faut faire zéro faute. Si vous faites la moindre erreur, si vous ratez la moindre prévision dans la moindre division, c'est la merde. Par contre, si vous êtes tout juste, tout va bien, c'est génial, c'est fantastique. Au-delà de ça, ce qu'il faudra aussi regarder, c'est que si les chiffres sont trop forts, si tout va trop bien, les gens vont commencer à paniquer parce que, oulala, c'est de l'inflation et c'est pas super super. Donc on est toujours un petit peu au milieu de tout ça. Donc c'est vraiment une question d'interprétation, encore et encore. Et alors hier, on a eu typiquement un des chiffres qui a été publié, c'est UPS. UPS a fait un carton au niveau des chiffres, il a pulvérisé les attentes. Alors on va dire, oui, ok, les gens sont beaucoup plus à la maison, donc ils achètent beaucoup plus par sur internet, donc ils se font livrer, donc voilà, ceci expliquant cela. Mais ça veut aussi dire, on dit toujours que quand les gens, les DHL, les FedEx, les UPS qui cartonnent, ça veut aussi dire que forcément il y a un risque un tout petit peu inflationniste. Mais peu importe, à noter quand même ça dans un coin du bouquin. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a regardé, parce que hier UPS a quand même pris 14% sur ses bons chiffres et c'était la première bonne nouvelle de la journée. L'autre bonne nouvelle de la journée, c'était les chiffres d'UBS. On en a parlé hier matin. Je vous disais qu'ils étaient bons, mais qu'il fallait voir un peu comment ça va être interprété. Ça a été très bien interprété, le titre termine en hausse de 9,3%, donc très très bon chiffre du côté UBS, bien perçu en tous les cas, ça c'était une autre bonne nouvelle. Et puis dans les autres bonnes nouvelles, on continue toujours dans un autre secteur, c'est le pétrole. Exxon a cartonné, donc Exxon a juste explosé les attentes et le titre prenait 6,4% pour fêter ses très bons résultats. Alors encore une fois, on voit un peu ce retour en grâce des titres pétroliers qui ont été complètement détestés il y a 12-18 mois. Plus personne n'en voulait parce que le pétrole, c'est mal et ça pollue. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à revenir sur le fait que oui, mais quand même, ça pollue, mais ils payent des gros dividendes. Donc les gens sont revenus gentiment sur ce type de valeur. Et là, aujourd'hui, on a Exxon qui a explosé les attentes et qui terminait quasiment au plus haut depuis je ne sais plus combien de mois. En tout cas, la performance sur 14-15 mois, c'est quasiment du 120% sur Exxon. Donc on a connu des techs qui étaient moins performantes que ça récemment. À propos d'Exxon, j'aimerais juste aussi vous montrer un chart qui va s'afficher à l'instant sur votre écran. Sur ce chart, vous verrez finalement la performance du secteur énergétique aux États-Unis. Et grosso modo, on vient de traverser une performance absolument drastique, fantastique, exceptionnelle. On a fait 19% de performance le dernier mois, sur le mois de janvier, aux États-Unis sur le secteur énergie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe en général après ? Eh bien, si vous voyez ici les 5 autres mois où on a eu des performances stratosphériques du même acabit, vous voyez ici, eh bien, généralement, eh bien, ça nous donne un petit ordre d'idée de ce qui peut se passer. Alors forcément, vous me direz, c'est pas évident, parce que si vous prenez la période d'avril, enfin avril 2020, où on a perdu 25% sur 6 mois, et la période d'avril, enfin de novembre 2020, où on a pris 42%, cette période s'explique aussi par le fait que c'était en pleine pandémie, on a eu ce fameux trou dans le baril, puisqu'on est allé en négatif sur le baril, et ce qui fait que pendant un moment, le pétrole a été totalement déprimé, puis tout d'un coup, on est revenu, il y a eu une forme de récupération. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, on va dire, de tout ça, c'est que même après une super période, eh bien, le pétrole continue à bien se comporter. Le baril est toujours autour des 88,5-89 $ sur le WTI, ça continue à aller très très bien, mais on voit qu'il a un tout petit peu plus de peine pour l'instant. Pas de mots spécifiques du côté de l'Ukraine, donc ça calme un petit peu le jeu de ce côté-là. Donc pour l'instant, ça se calme, mais ça ne baisse pas. Et je rappelle toujours que plus on va se rapprocher des 100 $, plus ça va devenir délicat. Il y a de plus en plus, toujours, beaucoup de banques d'affaires qui sont très bullish sur le prix du baril. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation. Enfin, on va devoir sous-peser un peu tout ça ces prochains temps. Mais en tout cas, pour l'instant, par rapport au passé, on notera effectivement que Exxon a publié des chiffres juste fantastiques. Et puis là, autrement, moins drôle chez AT&T, les chiffres étaient ok, mais globalement, ils ont annoncé donc le spin-off de la division Warner Media, donc du coup, ils vont réduire leurs dividendes encore, donc ça, c'est pas une super nouvelle, surtout que AT&T est un gros payeur de dividendes habituellement, donc ça, c'est pas top, le titre perdait 4,3%. Après la clôture, on avait GM qui sortait des chiffres, on va dire, quasiment un non-event, et le titre ne faisait rien, il terminait en hausse, et puis grappillait encore 1% après la clôture. Mais surtout, ce qu'il faudra retenir de cette publication trimestrielle d'hier, c'est les chiffres d'AMD et de Google. Alors AMD, je vais pas aller dans le détail, je vais faire assez simple, ils ont cartonné, ils ont pulvérisé les attentes des analystes, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on craignait, dans le sens où, à force d'avoir peur, on a réduit, et puis finalement, eh ben, les gars, ils sont arrivés, ils ont pulvérisé les attentes, le titre prenait plus de 10% hier soir after close, donc on voit de nouveau que les semi-conducteurs, encore un, a publié des chiffres nettement meilleurs que les attentes. Alors je sais pas si c'est nettement meilleur parce que les analystes ont simplement baissé les pantalons depuis plusieurs semaines, ou simplement ils sont juste excellents et que le business continue de fonctionner très très bien. Je crois qu'il y a un peu des deux, mais il est clair qu'aujourd'hui, eh bien, on avait une AMD qui était à pas loin de 100 $ il y a quelques jours, on est à plus de 120 maintenant, on a repris quasiment 25% depuis les plus bas de la semaine dernière, sur un titre qui a juste publié des résultats excellents, qui étaient prévus, qui devaient être excellents, et on avait déjà eu une petite odeur de tout ça avec les chiffres précédemment de Texas Instruments, par exemple, donc ça va pas si mal au niveau des semi-conducteurs, donc il y aura une grosse interrogation à se poser ces prochains temps, parce qu'il y a encore des grands noms, entre autres, il y a encore Nvidia qui va bientôt sortir, donc là aussi, il faudra voir un peu comment ça va cartonner. Néanmoins, Nvidia, j'imagine qu'ils vont bénéficier aussi des bons chiffres d'AMD, donc il va y avoir un peu un effet entraînement. Pour l'instant, les futurs ont l'air plutôt positif ce matin, mais aussi plutôt positif parce que Google a publié des chiffres exceptionnels hier soir, là aussi ils ont doublé leur bénéfice l'année précédente, bon, carton plein, tout va bien, c'est génial, et en plus, alors la bonne nouvelle du jour chez Google, c'est qu'ils annoncent enfin un split. Alors ça, c'est une révolution, ça fait des années qu'on attend un split de Google, et qu'ils disent non, nous ça va très bien. Aujourd'hui, ils veulent se rendre beaucoup plus accessible aux petits actionnaires, donc ils annoncent un split par 20. Alors, en plus des très bons chiffres qu'ils ont publiés hier soir, eh bien, tout d'un coup, vous avez Google qui split, en plus des bons chiffres, eh bien, ça fait une espèce d'aspiration à la hausse. Le titre prenait encore 9,5% hier soir after close. Tout le monde est en train de dire que s'ils réduisent forcément la taille de leur titre, eh bien, du coup, ils vont pouvoir potentiellement entrer dans le Dow Jones. Donc, du coup, s'ils rentrent dans le Dow Jones, c'est encore une dynamique supplémentaire pour Google. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'attend à que, en fin de semaine, eh bien, Amazon vienne aussi annoncer un split, et ce qui pourrait annoncer pas mal de coups de sac au niveau du Dow Jones ces prochains temps, puisque pour rentrer dans le Dow, vous pouvez pas avoir un titre qui vaut 2500 $. Il faut être quand même un tout petit peu plus bas. Donc, on a pas mal de choses qui risquent de changer. Sur Google, aussi à noter, dans la conférence de presse, ils ont annoncé qu'ils vont avoir un paquet de problèmes au niveau juridique, parce que la plupart des gouvernements sont en train de les attaquer pour monopole. Alors, on connaît un petit peu l'histoire. Évidemment, la grande question qu'on peut se poser, c'est oui, Google sont probablement monopolistiques. Mais en même temps, moi je sais pas, mais quand je vais chercher quelque chose sur le net, je sais pas aller sur autre chose que Google. Les autres, ils sont nuls. Donc finalement, vous allez sur un moteur de recherche de Google, tout le monde va là-dessus. Donc forcément, on est un petit peu coupable aussi de cette zone monopolistique. On a déjà vécu ça il y a pas mal d'années en arrière avec Microsoft, où tout le monde s'est rendu compte que Microsoft, tout le monde avait ça sur leur PC, et puis que c'était pas très bon pour la libre concurrence. Alors on a fait un scandale. On a voulu couper Microsoft en plusieurs morceaux, et puis Bill Gates à l'époque avait dit: bon, bah, très bien, puisque vous voulez transformer Microsoft en plusieurs morceaux, eh bien je me casse à l'étranger. Alors du coup, c'est oui, non, mais c'est pas ce qu'on voulait dire, enfin voilà, t'énerve pas. Bref, du coup, on va avoir pas mal de discussions là-dessus, mais quelque part, pour l'instant, il faut aussi comprendre que Google ou pas Google, monopole ou pas monopole, pour l'instant, les consommateurs n'utilisent quasiment que ça, donc on va avoir un sacré problème à régler de ce côté-là. Néanmoins, effectivement, chaque fois qu'il y aura un jugement, ils vont devoir payer 30 milliards d'amende, ce sera moyennement drôle. Mais néanmoins, pour l'instant, en tout cas au niveau des chiffres, tout va très bien du côté de Google. Ils s'en sortent encore une fois très très bien. C'est toujours très difficile d'interpréter les chiffres de Google, tellement il y a de divisions et tellement il y a de métiers différents. Mais en tout cas, le marché pour l'instant salue la chose. Google est en hausse, les futurs sont en hausse et ça a l'air de bien commencer pour ce mercredi matin. Rapidement, dans les petites nouvelles du jour, on notera quand même que lundi, donc lundi dans le rebond, on a eu des outflows, donc des gens qui ont vendu massivement l'ITI américain, le SPY, le SPY qui représente le S&P 500, 7 milliards d'outflows qui sont sortis rien que lundi dans le rebond. Même chose sur le QQQ, donc la version du Nasdaq, l'ETF Nasdaq, donc aussi 6,9 milliards qui sont sortis. Donc des gros 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 montants qui sont sortis de ces deux ETF. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que pour l'instant, en tout cas, on va dire l'investisseur de base ne croit pas du tout au rebond qu'on est en train de vivre et il profite simplement de l'opportunité pour se mettre cash parce que la confiance est à zéro. Et c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de gens derrière qui disent que c'est un rebond, on va se calmer et on va se refaire la vague suivante pour aller beaucoup beaucoup plus bas. Alors c'est à double tranchant, hein. Moi je suis assez contrariant, mais quand on vient me dire oui, c'est exactement ça qui va se passer, c'est pas souvent ce qui se passe en général. Donc à surveiller, mais néanmoins des gros outflows aux États-Unis, c'était assez impressionnant et c'est historique parce que sur le SPY, donc sur un jour, on n'a jamais eu autant d'outflows. La dernière fois qu'on avait eu autant de vendeurs, c'était durant la crise de la bulle Internet en 2000. Côté Russie, Ukraine et consorts, il y a Poutine qui commence à parler, qui estime que les Occidentaux, les Américains, personne ne l'écoute. On peut pas lui en vouloir de ce côté-là, hein, parce que pour l'instant, on n'entend que Biden et Macron qui couinent, mais pas forcément l'avis de Poutine. Donc, il n'est pas super content de ce qui se passe. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais il a l'air d'avoir quand même un discours plutôt en direction d'éviter la guerre mondiale. Donc, ça, c'est plutôt positif. On a aussi Tesla qui rappelle 54 000 voitures parce qu'ils ont un problème sur l'autopilote de Tesla. Apparemment, quand elles arrivent au stop, eh ben, elles s'arrêtent pas, elles continuent, elles traversent quand même. Parce qu'elles arrivent pas bien à reconnaître le panneau stop. Alors on se réjouit quand toutes les Tesla seront équipées d'autopilotes à la fin de l'année, comme Monsieur Musk l'a annoncé. Mais en tout cas, 54 000 voitures sont rappelées chez Tesla. C'est pas un gros truc, c'est pas très très grave, mais fondamentalement, eh bien, ça montre vraiment que leur truc d'autopilote, ça marche super bien. En tout cas pour l'instant. Et donc, affaire à suivre. Le titre n'a pas été impacté par ça, mais il faut quand même soutenir la nouvelle, hein. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rigoler. Et puis pour terminer, on notera aussi que plusieurs sociétés de private equity type BlackRock sont en train de tourner autour de la division générique de Novartis qui s'appelle Sandoz. Ils sont tous en train de s'intéresser à ça et ils pourraient mettre 25 milliards sur la table pour aller racheter la division de Novartis. Donc ça pourrait donner un petit peu un coup de fouet à Novartis ces prochains jours, qui sait? Pour ce qui est de Novartis, eh bien, il faudra aussi noter que ce matin, ils vont publier leurs résultats, ainsi que Julius Baer, et puis il y aura également Ferrari qui publiera ses résultats en Europe. Pour ce qui est des États-Unis, et comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche, eh bien, nous aurons ABBV avant l'ouverture, il y aura également Boston Scientific, Thermo Fisher à noter dans ce secteur-là, et puis après la clôture, eh bien, il y aura donc Metaverse, Facebook, Qualcomm, Spotify qui est en pleine tempête en ce moment pour avoir un petit peu trop laissé parler des gens qui étaient anti-Covid sur leur podcast. Donc voilà, quelques chiffres encore à sortir. Le gros truc de la journée, c'est donc Facebook après la clôture. Novartis qui a déjà dû publier à l'heure où moi je vais publier cette vidéo, mais Désolé, comme là c'est 5h du matin, je fais ce que je peux. Et puis on verra un petit peu comment ça continue. Pour l'instant, on est plutôt bien orienté pour continuer cette semaine. On va toucher du bois et puis espérer que les gens qui ont balancé des tonnes et des tonnes de SPY et de QQQ en début de semaine, eh bien, ils ont eu tort. Donc, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Et puis, n'oubliez pas de revenir demain, de liker cette vidéo et puis de passer une très très belle journée. Profitez bien. À demain. Bye bye.